Radio Okapi.
Le journal Belinda Bosuma.
La situation ne semble pas évoluer. 48 heures après la prise en otage de 8 membres de la délégation chargée de sensibiliser les groupes armés en Ituri, les otages sont encore retenus par la CODECO. Pas de nouvelles sur les négociations qui seraient en cours pour leur libération, mais l'espoir est permis, pensent certaines sources. À ce sujet, justement, nous recevons comme invité dans ce journal le professeur Chaubert Aguenonga, enseignant à l'université de Kisangani et spécialiste des questions de sécurité. Et puis, la rougeole fait rage dans la province du Kwango. Plus de 700 cas déjà enregistrés depuis janvier dernier et la prise en charge pose problème. Le médecin épidémiologiste de la division provinciale de la santé du Kwango sollicite l'appui des autorités et des partenaires. Voilà tout pour les titres. Madame, messieurs, bonjour. Encore une fois, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. Les membres de la Task Force, cette délégation des anciens seigneurs de guerre de l'Ituri, dépêchés par le chef de l'État pour sensibiliser les groupes armés à déposer les armes, sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs, les miliciens de la CODECO. Aucune information n'a filtré jusqu'ici sur les négociations dont on dit qu'elles sont en cours pour leur libération. Cependant, certaines sources pensent que l'espoir est permis, même si ces miliciens font monter les enchères pour faire prévaloir leurs revendications. Des détails avec Isaac Remoyope.
48 heures après la prise en otage des 8 membres de la Task Force, la situation ne semble pas évoluer. Les otages sont toujours gardés au bastion de la milice CODECO vers Goutsi, environ 60 km au nord de Bounia, dans les territoires de Djougou. Mais selon nos informations, les tractations se poursuivent secrètement pour que ces otages recouvrent la liberté. Les notables et les autorités coutumières des différentes communautés locales sont également impliqués pour tenter de persuader ces hommes armés de revenir à la raison en privilégiant la paix. Certaines sources qui ont requis l'anonymat révèlent que le gouvernement de la République est également préoccupé par cette situation pour trouver une voie de sortie. Une première bonne nouvelle cependant, tous les otages sont bel et bien en vie et ne sont pas maltraités par leurs ravisseurs. Pour le moment, tous les regards en Ituri sont tournés vers Djougou pour attendre l'issue finale de cette prise d'otage. Une issue que tout le monde ici espère heureuse car, de l'avis de beaucoup d'observateurs, l'avenir de cette province en dépend. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Nord Kivu, le sous-effectif des magistrats militaires et des inspecteurs judiciaires a un impact négatif sur le bon fonctionnement de la justice. Cette situation s'explique en partie par la suspension des juridictions civiles en cette période où la province du Nord Kivu est placée sous état de siège depuis mai 2021, ce qui entraîne comme conséquence, entre autres, une pléthore des détenus dans les maisons d'arrêt, en plus des incarcérations prolongées des milliers de pensionnaires. Les détails dans ce reportage de Gabriel Wamenia, rendu par Bernard Nyangi.
Au parquet militaire de Goma, ainsi qu'à l'auditorat de garnison et l'auditorat supérieur, on ne compte qu'une trentaine de magistrats militaires et inspecteurs judiciaires. C'est ce qui explique, d'après le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Nord Kivu, la lenteur des procédures judiciaires, Maître Abel Ntumba.
Le sous-effectif a une conséquence directe sur le droit de la défense, sur le droit à la liberté, le droit à un procès équitable, et cela ne permet pas de dire que la justice est administrée correctement lorsqu'il y a sous-effectif de magistrats.
Le président de la société civil provincial estime quant à lui que le nombre de magistrats militaires devrait être augmenté ou restaurer entièrement les compétences des juridictions civiles. John Banyene.
Si vous arrivez aujourd'hui au niveau de l'auditorat militaire ici à Goma, vous allez voir là, il y a un pareil même. Donc, les magistrats sont débordés. Il fallait qu'on augmente le nombre de magistrats au niveau de Goma, même au niveau de chaque territoire et de d'autres villes. Et il fallait qu'on ouvre encore les juridictions civiles.
Rappelons que les mesures d'application de l'état de siège avaient transféré toutes les compétences pénales aux juridictions militaires, laissant seulement les dossiers non répressifs aux juridictions civiles. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
En marge du sommet Union africaine-Union européenne qui se tient depuis jeudi à Bruxelles en Belgique, le Premier ministre Samalou Kondé a visité hier le Musée royal d'Afrique centrale à Tervuren où logent plusieurs œuvres d'art et différents patrimoines culturels d'origine congolaise. Il était accueilli et conduit au musée par le Premier ministre belge Alexandre Descrocq, accompagné de son secrétaire d'État en charge de la politique scientifique Thomas Dermine de la Belgique. Au cours des échanges avec son homologue belge, Samalou Kondé a reçu un document comprenant la liste complète de tous les patrimoines provenant de la RDC logés dans ce musée. La remise de ce document est une étape importante dans le processus de rapatriement des œuvres d'art congolaises, un processus en cours, a dit le Premier ministre Samalou Kone à la presse après la visite du musée. On l'écoute.
En ce qui concerne le sommet, cela a été mentionné ici, beaucoup d'échanges qui se font entre l'Union européenne et l'Union africaine, avec pour nous des questions essentielles, et vous avez bien fait de le mentionner, prioritairement des questions de paix et de sécurité, parce que pour le moment, en République démocratique du Congo, en proie à toutes ces questions, c'est une occasion pour nous d'en parler, ici dans le cadre de ce sommet, mais aussi ces questions de santé. Moi, j'accueille, mais vraiment à bras ouverts, mais c'est quelque chose que, justement, nous pensons que, dans le cadre des relations que nous avons déjà, notamment d'ailleurs avec notre centre de recherche, qui est l'INRB, il pourrait y avoir des possibilités en termes de production de vaccins, au vu non seulement de notre position géographique, mais de notre démographie, mais au-delà de ça, toutes les pandémies auxquelles nous faisons face. Donc cette collaboration serait vraiment la bienvenue. Nous l'attendons le plus tôt. Bien sûr, d'autres questions vont être mises en discussion dans le cadre de notre collaboration, notamment en ce qui concerne, comme je l'ai dit, le domaine sécuritaire, mais aussi dans nos finances publiques et tous les échanges que nous avons.
Toujours devant la presse internationale à Bruxelles, dans le cadre du sommet Union africaine-Union européenne, le Premier ministre congolais a dévoilé les priorités de la RDC à ces discussions qui se clôturent aujourd'hui. Le Premier ministre Samalou Kone dans cet extrait choisi par Daniel Tambinzoni.
Ici, c'est une occasion de saluer deux faits. D'abord, cette visite que nous avions reçue récemment, ça a été mentionné par Monsieur le secrétaire d'État lui-même qui était là, mais nous avions aussi Madame Myriam Kittir. Nous avions aussi Monsieur Guido Kressels qui était avec nous, qui ont pu visiter le musée de Kinshasa et qui ont eu des échanges avec tous les experts justement dans ce secteur en ce qui concerne non seulement les pièces à considérer, mais aussi les conditions, parce que ça c'était aussi un fait très important, les conditions dans lesquelles bien sûr ce patrimoine serait conservé une fois qu'il serait rapatrié au Congo, et puis les échanges. Et ça l'a été mentionné ici, parce que ici c'est pas seulement un transfert d'objets, mais c'est aussi un transfert en termes de connaissances, en termes d'expérience pour la conservation de ces éléments. C'était beaucoup d'échanges aussi en termes de périodicité à prendre en compte et de comment est-ce que les choses devraient se faire.
Parlons santé à présent. Flambée des cas de rougeole dans la province du Kwango. Plus de 700 cas sont déjà enregistrés dans cette province depuis le début de l'année 2022 en cours. Le médecin épidémiologiste de la division provinciale de la santé du Kwango qui l'annonce précise que c'est dans au moins trois zones de santé, soit Popokabaka, Kitenda et Panzi. Selon le docteur François Mwakisenda, plusieurs difficultés sont rencontrées dans la prise en charge de ces cas, entre autres le manque d'intrants. Il sollicite l'appui des autorités sanitaires et des partenaire Irène Boma.
Selon ces médecins épidémiologistes de la division provinciale de la santé du Kwango, la zone de santé de Kitenda est la plus touchée avec plus de 730 cas, suivie de Popokabaka qui a enregistré 24 cas et celle de Panzi vient en dernier lieu avec 4 cas. À l'en croire, l'insuffisance des intrants ne facilite pas la prise en charge de ces nombreux cas de rougeole au Kwango. Ils sollicitent l'appui des autorités et des partenaires afin de sauver la vie des enfants de cette partie du pays. Docteur François Mwakisenda.
Par rapport d'abord à la zone de santé de Kitenda où il y a plus de cas, il y a l'équipe des MSF, les médecins sans frontières qui sont partis là-bas riposter contre la rougeole. Ils ont laissé un kit là-bas pour la prise en charge. Malheureusement, vous savez que les zones ne sont pas appuyées. Dès que ce kit-là se termine, c'est qu'ils ne seront pas obligés de prendre en charge les enfants. Les autres zones ne sont même pas prises en charge. Il n'y a aucun partenaire qui appuie la riposte contre la rougeole. Raison pour laquelle c'est rêvé d'organiser campagne d'activité de masse et vacciner tous les enfants contre la rougeole. Mais ailleurs, il n'y a pas des intrants. Le gouvernement pouvait nous doter de médicaments pour lutter contre cette maladie.
Docteur François Mwakisenda appelle les parents de ces coins à respecter les calendriers vaccinaux de leurs enfants pour les protéger contre les maladies évitables par la vaccination. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Santé toujours, lutte contre le coronavirus, le ministre provincial de la Santé du Maniema encourage toute la population à se faire vacciner pour se protéger de cette pandémie, mais aussi de bénéficier de cette mesure d'exemption de test avant de voyager. Docteur Kibungi Junior a lancé cet appel à la suite suite de certaines incompréhensions affichées par la population qui pense que cette mesure d'exemption concerne tout le monde. On écoute le ministre provincial de la Santé du Maniema au micro de Florence Kizalunga.
Le niveau national a décidé qu'une personne qui est complètement vaccinée ne va pas faire les tests avant de voyager, mais la personne qui est incomplètement vaccinée, c'est-à-dire qui n'a pas reçu toutes les doses recommandées, va faire les tests avant de voyager. Nous demandons à la population d'Imaniema de se faire vacciner parce qu'il y a un centre de vaccination qui est fonctionnel à l'hôpital général de France de Kindu. Nous avons démarré en mode routine avec un seul centre. L'avantage d'une personne qui est complètement vaccinée, il va se protéger contre la maladie à coronavirus. Également, il va bénéficier de l'exemption des tests avant de voyager. Nous avons localement ici des sortes de vaccins. Le vaccin à dose unique et l'autre vaccin à deux doses. C'est-à-dire, si vous avez reçu une dose sur deux qui est prévue, à ce moment-là, vous allez faire les tests avant de voyager. Tandis que si vous avez les deux doses pour le vaccin à deux doses, vous n'allez pas faire les tests.
Rappelons que selon les nouvelles mesures annoncées récemment par le gouvernement, le test Covid est obligatoire à l'entrée du pays pour toutes les personnes non vaccinées et obligatoire également pour ceux qui voyagent sur le territoire national. Selon les mêmes mesures, le test Covid est obligatoire même pour les personnes vaccinées qui veulent sortir du pays. Rendons-nous au Kasaï central. Les enfants reporters disent constater avec amertume la vente des plants peanuts à différents endroits à Kananga, alors qu'ils sont destinés aux enfants malnutris. Il y a 2 ans, le gouverneur de province avait signé un arrêté interdisant cette pratique. Pendant que dans les hôpitaux, il y a carence de cet aliment, l'encadreur des enfants reporters de la province signale que cet aliment est visible dans les écoles, les pharmacies et même dans les marchés. Merveille Lola trouve cette pratique inadmissible et demande l'intervention des autorités pour arrêter la vente des plants peanuts. Merveille Lola, encadreur des enfants reporters du Kasaï central, explique au micro de François Kadima.
Que ces plants peanuts sont conçus pour les enfants qui souffrent de la malnutrition. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères. Tant que nous continuerons d'en acheter, nous donnons la force aux gens qui volent dans des hôpitaux, dans des centres de santé, de continuer à les faire. Déjà, nous ne connaissons pas le vrai circuit, comment ça s'est fait que ces personnes soient en possession des plants peanuts. Et donc, nous demandons en tout cas à tout le monde, déjà les enfants reporters ont lancé cet appel à tout le monde de dénoncer en tout cas. Parce que lorsqu'on ne dénonce pas des cas comme ça, nous sommes complices. Alors, selon ce que nous avons entendu dire de médecins, la consommation de plants peanuts par les personnes qui sont en bonne santé a beaucoup de conséquences, notamment de problèmes cardiaques à la longue. Parce qu'on en mange, on s'est dit, mais c'est bon, on en consomme, c'est bien. Mais à la longue, il y a des répercussions. Il y a des gens maintenant qui ont des problèmes cardiaques, qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé, mais qui n'arrivent pas à se rappeler qu'à une époque, ils ont consommé beaucoup de plein pinette.
À la division provinciale de la santé, on s'indigne de constater que cette pratique continue et la population doit dénoncer toutes les personnes qui continuent à le faire et ainsi informer les autorités. Rendons-nous dans le territoire de Walungu, au sud Kivu. Lancement hier du projet d'éclairage solaire public du centre commercial de la cité de Nyangezi. C'est sur demande des autorités locales que la MONUSCO a financé l'installation d'une 30aine de lampadaires solaires. Cynthia Bachizi a participé à cette cérémonie de lancement à Nyangezi. Voici son reportage.
Situé à 25 km de Bukavu, Nyangezi est un important carrefour commercial sur la route nationale numéro 5. Mais cette cité, de plus de 80 000 habitants, surtout son centre commercial, est confrontée à une récurrence des violences nocturnes amplifiées par le manque d'éclairage public. C'est dire combien ce projet était attendu. Léonard Rutengura, représentant du chef de groupement.
Plusieurs cas de sécurité se faisaient déjà sentir ici. Chaque fois le dimanche, les gens qui quittent le marché de Nyangezi sur la route national numéro 5, ils sont attaqués par les bandits et c'est la cause de l'obscurité. Si aujourd'hui nous pouvons mettre des panneaux solaires pour éclairer les coins et les coins de Nyangezi afin qu'il y ait la lumière, et cela va faire que ces gens ne puissent plus se cacher et déranger la population. C'est une chose vraiment que nous attendions et donc toute la population de Nyangezi se réjouit.
Un atelier d'engagement communautaire avec toutes les forces vives a été organisé à Nyangezi. Objectif, responsabiliser les bénéficiaires pour pérenniser cet acquis et surtout qu'ils puissent s'approprier du projet. À l'issue de cet atelier, un comité local de suivi a été désigné. Notez que tous les lampadaires solaires seront installés dans un délai d'un mois, le tout pour un financement de plus ou moins 40 000 dollars américains. De retour de Nyangezi, Cynthia Bachizi, Radio Okapi.
Actualité internationale. 280 containers chargés de déchets ménagers importés illégalement en 2020 en Tunisie seront renvoyés en Italie, le pays d'origine. 26 personnes sont actuellement poursuivies pour leur implication présumée dans l'importation de ces déchets. Un ancien ministre de l'Environnement, Mustapha Haroui, a même été arrêté. Selon le ministère de l'Environnement de la Tunisie, ces containers sont arrivés de Campanie, une région du sud de l'Italie, et restent stockés au port de Sousse. Ils avaient été importés par une société tunisienne qui les avait faussement présentés comme des déchets plastiques qu'elle était censée recycler. Son gérant est toujours en fuite. Selon l'accord de coopération signé la semaine dernière entre la Tunisie et l'Italie, la réexpédition des 213 containers s'effectuera le 19 février. Quant au reste, des concertations se poursuivent entre la Tunisie et l'Italie. Le renvoi de ces déchets a été à l'origine des manifestations dans le pays.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le professeur Chaubert Aguenonga, enseignant à l'université de Kisangani et spécialiste des questions de sécurité. Il fait l'analyse de la stratégie du gouvernement congolais qui utilise à la fois la carotte et le bâton en Ituri, c'est-à-dire l'armée bombarde en même temps les positions des groupes armés, alors que des négociations menées à travers la task force dont les membres sont pris en otage depuis mercredi sont en cours. Chaubert Aguenonga s'entretient à ce sujet avec Isaac Remoyope.
Professeur Chaubert Aguenonga, bonjour.
Bonjour.
Alors, 8 membres de la task force, cette délégation des anciens seigneurs de guerre de l'Ituri, dépêchés par les chefs de l'État pour sensibiliser les groupes armés à déposer les armes, sont pris en otage depuis mercredi par des miliciens de la CODECO. Comment analysez-vous cette situation et quel impact cela pourrait-il avoir avec le processus de paix en cours en Ituri?
Bien, il faut souligner que les 8 membres de la task force ont été enlevés pendant qu'ils étaient en mission de sensibilisation et dans le nord de la ville de Bounia, à Bamou précisément, dans le groupement Yaba. Donc, c'est survenu pendant que les membres de cette délégation étaient en pleine sensibilisation et du coup, un hélicoptère de CSG a commencé à lancer des frappes dans la région. C'est ce qui a provoqué cet incident. Donc, premièrement, le moins que l'on peut dire, c'est que il y a véritablement une maladresse ou un malentendu au niveau même des autorités qui sont en charge de la gestion sécuritaire en Ituri, parce qu'il est tout à fait impensable que on sensibilise les gens en même temps et on envoie les hélicoptères venir bombarder la région même où cette sensibilisation intervient. Donc vraisemblablement, et on a comme une question qu'il n'y a pas véritablement une approche coulante. Hein, il n'y a pas une coordination efficace des actions susceptibles de rappeler la paix dans cette partie de l'Ituri.
Si cela est vrai, pensez-vous que cette approche du gouvernement soit bonne pour régler les problèmes de l'insécurité en Ituri?
Alors, il y a deux choses importantes qu'il faut retenir. La première est qu'il y a une incohérence d'approche sécuritaire dans la province de l'Ituri. Et cette incohérence, c'est moins d'une absence flagrante de coordination des actions susceptibles de ramener la paix en Ituri. On ne peut pas vouloir à la fois la négociation et recourir aux moyens coercitifs. Donc, les deux approches sont incompatibles. Ou bien, on recourt à des pressions militaires à ce moment-là et on ferme la porte à la négociation. Ou bien, on prend la négociation à ce moment-là, le parti doit avoir décréter le cessez-le-feu, une trêve, voulait dire.
Alors, la CODECO conditionne la libération de ces otages par le respect de leur cahier des charges. Certains parlent des chantages. Vous en pensez quoi?
Oui, c'est un chantage pur et simple parce que l'on ne peut pas retenir les membres de la task force qui sont allés sensibiliser les miliciens pour conditionner leur libération par la levée de l'état de siège ou par le départ du gouverneur militaire. Mais là aussi, ça montre quelque part qu'il y a une absence flagrante de volonté de négocier au niveau des CODECO avec le membre de la task force. Là, une fois de plus, je m'aperçois que l'approche du départ était déjà biaisée. Donc, les membres de la task force devaient préalablement accorder le violon avec les combattants des CODECO, s'attendre avant de descendre sur le terrain. Donc, c'est cela justement. Donc, je m'aperçois que on est en train justement de voler de cohérence en incohérence. Il n'y a pas une approche, il n'y a pas une planification efficace. Donc, il y a une impréparation totale, absolue.
Pour terminer, quelle peut être la voie de sortie pour le gouvernement dans la situation actuelle pour qu'Elitouri recouvre une paix durable?
L'approche sécuritaire à l'œuvre est totalement à repenser. Il n'y a pas une approche de cohérence dans la mesure où, évidemment, les Codeco est en train de profiter de failles, de faiblesses même de l'approche sécuritaire du gouvernement pour narguer les institutions. Il faut une montée en puissance de l'armée. C'est très important, en vue de dissuader tous ceux qui sont entrés et semer la terreur et la désolation dans la région. Mais si une négociation y a, cela ne doit pas résulter de l'échec des actions militaires. Cela donnerait l'impression du fait que le gouvernement a capitulé. Donc, il est plus qu'important pour que le gouvernement reprenne totalement l'approche à l'œuvre, renforcer le moyen militaire, permettre aux militaires d'être le plus dissuasif possible pour contraindre les miliciens au dialogue, pour contraindre les miliciens à la négociation. Je pense que c'est de cette manière qu'il faudrait procéder. Parce que si on ne le fait pas de la sorte, l'impression qu'on va donner, c'est que le gouvernement a capitulé devant une milice qui n'a ni territoire ni population. Et à ce moment, les miliciens ne feront que monter les enchères comme ils sont en train de le faire maintenant.
Voilà, c'était là notre invité, le professeur Chobert Agenunga, enseignant à l'université de Kisangani et spécialiste des questions de sécurité. Il s'entretenait avec Isaac Remoyope. C'est la fin de ce journal, coordonné par Nuela Luzi Tukabambi et Piero Elameji, à la mise en onde Polydor Basunga et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de votre attention.